Art, culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Le week-end prochain, le patrimoine est en fête partout en Europe pour les 39e journées européennes du patrimoine. En Mayenne, près de 220 événements se produiront. La radio a reçu beaucoup d'annonces en ce sens. Nous sommes heureux de pouvoir relayer ces infos à tous nos auditeurs. Alors venant de Livry-la-Touche, Madame Geneviève Culin vient nous raconter au micro ce que vous pourrez admirer dans son village les 17 et 18 septembre prochains. Alors Geneviève Culin, bonjour.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler de ce qui va se passer à Livry-la-Touche le week-end prochain. Mais ce serait intéressant que vous nous racontiez déjà tout ce que vous avez organisé les années précédentes, parce que c'est très varié.
Oui, c'est très varié parce que depuis plus de 10 ans, à Livré, l'association Livré à 4, qui est présidée par Dominique Guédon, qui est peintre-écriteur, expose chaque année au début du printemps des artistes reconnus. En parallèle, Livré à 4 soutient le patrimoine local, et particulièrement l'église Notre-Dame de l'Assomption. Et aux journées du patrimoine, il est toujours présenté un événement exceptionnel. Par exemple, nous avons retrouvé et exposé les vêtements et ornements religieux anciens, aux couleurs de chaque période liturgique. C'est une fabrication remarquable et dans un très bon état de fraîcheur. Les visiteurs les plus âgés ont apprécié de retrouver ce qu'ils évoquaient comme la religion de leur enfance, celle antérieure à Vatican II.
C'était en quelle année ça? Il y a 3-4 ans?
Oui, il y a 4 ans.
Ça.
Oui. Mmh. Oui. L'année suivante, c'est Daniel Aubert, vitrailliste, restaurateur de vitraux et créateur, qui nous a expliqué avec passion le verre. C'est un matériau très ancien, mais qui est peu connu finalement, les pigments, les méthodes et le travail pour obtenir ces magnifiques harmonies entre l'architecture et la lumière.
Oui.
L'année suivante, cette présentation a été enrichie par une conférence de Stéphane Arondeau sur l'histoire des vitraux de Livry-la-Touche. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter les détails de l'histoire. Lors d'un premier contact, je lui avais présenté les vitraux. À l'aume, bien sûr, qui signe les saints jésuites et le vitrail des archanges.
19e,
c'est une signature reconnue dans beaucoup d'églises de la région. Et le Carmel du Mans, que je connaissais moins. Quand Stéphane Arondeau est entré dans l'église, interloqué, il nous a demandé de le laisser seul. Quelques minutes plus tard, il nous a expliqué sa réaction. Les 3 vitraux du Carmel du Mans sont datés des époques charnières de la congrégation. Traditionnellement, le Carmel présentait ses modèles sur des petits carnets dessinés en noir. Et vers 1870, 3 jeunes filles qui avaient travaillé à la manufacture de Sèvres sont entrées au Carmel. Elles ont recommandé à la supérieure une mise en couleur des carnets. Les ventes ont explosé, jusqu'aux États-Unis.
Les ventes de vitraux ou des carnets?
De vitraux.
Ah oui.
De vitraux.
Parce
oui.
que ça donnait une bonne image.
Parce que ça donnait la réalité de ce qui pouvait sortir, quoi. Alors que noir et blanc, ça ne pouvait rien donner.
Oui.
L'évêque d'alors a demandé à la supérieure de trouver une solution pour respecter le vœu de pauvreté qu'elle avait prononcé. Et l'activité a été vendue à un neveu. Celui-ci, qui n'avait pas fait vœu de pauvreté, a revendu l'entreprise quelques années plus tard à l'équipe Kuchelbecker, qui sont des ouvriers qui avaient toujours travaillé dans l'entreprise depuis le début. Dans les fenêtres du chœur, Saint-Julien et Saint-René, de 1875, et dans la grande fenêtre au bas de l'église, le vitrail du rosaire de 1887 de Kuchelbecker et compagnie.
Et pourquoi est-ce que M. Arondeau a été ému? Parce qu'il les a reconnus?
D'abord, il les a immédiatement reconnus.
Ah oui.
Et deuxièmement, on a des vitraux des périodes de transition, c'est-à-dire entre la première année du Carmel et l'arrivée des nouvelles religieuses, et entre la vente à la fin des nouvelles religieuses et les Kuchelbecker.
Ah oui, d'accord.
Donc ça avait quelque chose d'historique qui l'a énormément séduit. Ce vitrail du rosaire, c'était le point de départ pour moi de toutes les recherches que j'ai effectuées, car il atteste dans sa rosace Robert d'Arbrissel, fondateur de l'église de Livry-la-Touche.
Donc elle est très très ancienne.
Donc elle est très très ancienne, oui, elle date du XIIe siècle, du début du XIIe.
Mmh.
Elle est contemporaine à la roue, en fait. Même sa charpente est contemporaine, sa charpente du bâtiment d'origine est contemporaine de l'abbaye de Clermont. Donc c'est vraiment une église très très ancienne.
Et vous avez fait des études de la chrono...
Oui, oui, oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand on a découvert tout ça à Livry-la-Touche, on a demandé à la SAHM, la Société de l'archéologie et d'histoire de la Mayenne, de faire une étude complète sur l'église, ce qu'ils ont volontiers accepté, à condition qu'on suive avec eux, bien entendu. Ils ont conforté les premières hypothèses qu'on avait posées, mais eux sont des historiens patentés, donc moi je ne suis rien à côté.
Oui, c'est la dendrochronologie.
Hein. Et derrière, derrière la préfecture qui voit qu'on s'occupe de ce bâtiment et de l'aspect artistique des choses, nous a proposé une étude dendrologique de la charpente. Donc ils sont arrivés, c'était le tout début du Covid, ils faisaient un froid de gueux. Ils sont montés dans la charpente, ils ont carotté, puisque c'est du carottage, et ils ont complètement confirmé les datations qui avaient été évoquées. C'est fin du 11e, 12e.
Étonnant. Elle n'a jamais brûlé, vous vous rendez compte?
Non.
C'est
non,
rare, quand
non,
même.
Non. Mmh. Alors, c'est la première partie, oui. C'est 12e, la première agrandissement, 15-16e, et le second agrandissement, 19e, mais là, on n'a pas carotté, parce qu'on avait tous les éléments qui permettaient de justifier des choses. Mais l'année dernière, c'est un musicologue qui est venu, Olivier Culin, qui nous a expliqué les rapports entre musique et architecture. C'est un peu étonnant comme sujet, mais il a très bien su le faire. Enfin, c'est son métier d'ailleurs. En fait, l'antique règle d'harmonie se retrouve dans ces arts et explique l'impression très particulière qu'on ressent en entrant dans l'église de l'Œuvry-la-Touche. C'est-à-dire qu'on a le carré et le double carré. Et il explique les règles d'architecture et les règles d'harmonie en musique.
Ça a dû être très intéressant.
Très intéressant.
C'était pas trop hermétique.
Si, c'était très difficile. Il y a des gens qui ne sont pas du tout entrés dans le sujet, ou très légèrement. Mais par contre, il y en a qui sont revenus plusieurs fois, qui ont pris des notes et tout, parce que c'était assez exceptionnel.
Ah oui. Vous faites des choses variées.
On fait des choses variées, mais cette église, elle motive toutes les personnes qui viennent. Elles trouvent quelque chose à dire autour de cette église. Et alors, cette année, on expose les icônes de Christian Chauvel, une présentation de Marie-Hélène Guillère, co-responsable de la commission diocésaine d'art sacré, va nous faire découvrir cet art religieux particulier, la signification des éléments et les règles qui en donnent tout le sens. Leur écriture diffère selon leur origine géographique, byzantine, grecque, slave, russe, etc. Et la rencontre entre Marie-Hélène Guillère et Christian Chauvel nous permettra de mieux percevoir cet art pictural sacré que personne ne connaît bien en profondeur. Marie-Hélène Guillère a interviewé Christian Chauvel parce qu'elle est elle-même très prise au moment du Journée du patrimoine. Donc elle a fait un long entretien avec Christian Chauvel en s'appuyant sur son travail et en lui donnant une perspective. Et cette présentation a été enregistrée et elle passera
en boucle dans l'église.
D'accord. Oui. Alors, pour les Journées du patrimoine, on ouvre l'église les deux jours, samedi et dimanche, de 11h à 18h. Samedi, il y aura une présentation de l'église à 15h, pour ceux que ça peut intéresser et qui ne l'auraient pas encore vue. Et l'exposition d'icônes sera permanente, samedi et dimanche, avec la retransmission de la conférence.
Et l'entrée est libre ?
L'entrée est libre.
Ça, c'est la merveille, en général, pour des journées du patrimoine.
Mais ce qui est formidable pour les journées du patrimoine, c'est quand on voit cette mobilisation nationale, surtout le territoire, de bénévoles qui travaillent comme des fous pour pouvoir mettre à la disposition d'un maximum de personnes toutes ces merveilles.
Oui, c'est vrai.
C'est rare, enfin, il y a peu d'exemples de ce type.
Mais vous en faites partie, alors c'est merveilleux, merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève Culin. Et puis maintenant, je vais passer des extraits du fameux audiovisuel réalisé par Marie-Hélène Guillère pour commenter les icônes de Christian Chauvel. Merci beaucoup Geneviève Culin et à très bientôt sur nos ondes.
Au revoir.
Ancien professeur de dessin technique, Christian Chauvel aime dessiner et peindre dès l'enfance. Adulte, il reproduit des sites, des paysages et participe aux peintres dans la rue. Un voyage en Crète lui révèle la beauté de l'icône. Écrire une icône, c'est s'abstraire du monde matériel pour atteindre une autre dimension. Pour cela, l'art de l'icône est précis et codifié. Il utilise des symboles et des graphismes particuliers, gestuels, regards, couleurs, perspectives inversées. Les premières couches de peinture, très sombres, sont éclaircies progressivement par zones. L'auteur d'icônes quitte les ténèbres pour monter vers la lumière. Grâce aux connaissances bibliques qu'elle requiert et qu'elle nous transmet, l'icône nous conduit du visible vers l'invisible. La Vierge est vêtue de riches vêtements, parfois bordés d'or. Son regard, souvent mélancolique, traduit sa connaissance du destin tragique de son Fils. Ici, elle tient un sceptre, car elle est reine. Elle montre sa tendresse pour l'enfant qui protège dans ses mains un oiseau symbole de nos âmes qu'il est venu sauver. Parfois, l'enfant tient le monde entre ses doigts et nous adresse sa bénédiction. Assises ou debout, les Vierges à l'enfant nous offrent le Fils de Dieu, Rédempteur. Quand son voyage en Crète lui révèle la beauté des icônes, Christian Chauvel convertit sa peinture en louange à Marie et à Dieu par l'écriture d'icônes. Il en étudie les symboles, les prototypes, les modèles de référence comme la Vierge de Vladimir. C'est une Vierge de type Odigitria. Marie montre son fils, lui qui est le chemin. L'enfant, vêtu d'un drapé tissé de fil d'or, l'imation, enlace sa mère d'un geste tendre. Le maphorion, manteau drapé de Marie, est orné de trois étoiles, signe de sa virginité, une au-dessus du front, les deux autres sur les épaules. Le visage de la Vierge est saisi par l'ombre des souffrances à venir. La couleur violine est celle de la méditation. Cette icône, très vénérée en Russie, est réputée miraculeuse. Ici, Marie et Jésus sont représentés de profil. La Vierge est vêtue d'un maphorion bleu, couleur de la spiritualité. L'enfant, en drapé rouge, couleur de la royauté divine, saisit sa mère de ses deux bras. Sous le corps du nouveau-né, un linge comme un linceul, marqué de rouge, préfigure le sang versé. Dans la blancheur de leur visage, qui fait la modernité de cette icône, les regards de Marie et de Jésus se croisent tendrement sur fond de mélancolie. L'Annonciation. Le décor montre deux édifices. À gauche, celui de l'Ancien Testament. Devant lui, l'archange Gabriel apparaît à la Vierge. « Voici que tu concevras et enfanteras un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » Gabriel, envoyé céleste, a dans sa main gauche le bâton de héros. De sa main droite, il bénit Marie, assise, au seuil de l'édifice de droite, le Nouveau Testament. D'après le proto-évangile de Jacques, l'archange apparaît quand Marie file un écheveau pourpre destiné à tisser le rideau du temple de Jérusalem. Dans le ciel de l'icône, la tenture franchie par les rayons de l'Esprit-Saint unit les deux constructions. Jésus viendra accomplir la parole des prophètes, donc l'Ancien Testament. La Nativité. Sous les rochers s'ouvre une grotte sombre dans laquelle l'enfant repose dans ses langes. Le bœuf et l'âne se penchent sur lui selon la prophétie d'Isaïe, chapitre 1, verset 3. Devant la grotte, sur un large coussin rouge, repose la Mère de Dieu vêtue d'un maphorion bleu selon la tradition orthodoxe. Attentive et soucieuse, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, écrit Luc, au chapitre 2, verset 19. Joseph, assailli de crainte, semble dire « Je dois protéger cet enfant. Quel est donc le drame que je vois en toi ?» Les bergers sont en adoration à gauche. Les anges, sur la voûte céleste, chantent les louanges de Dieu. La Crucifixion. Représentation d'après une peinture murale de style melkite, caractérisée par des visages naïfs et poignants. La croix est érigée, selon saint Éphrem, au-dessus d'une grotte abritant le crâne d'Adam. Le Christ, nouvel Adam, est au centre de l'icône. La nuit manifeste que la création participe à la passion, éteignant toute lumière pour prendre le deuil. La tristesse et la douleur s'inscrivent sur chaque visage. À gauche, Marie soutenue par les saintes femmes, à droite, Jean l'évangéliste. Près de lui, le centurion Longinus, qui vient de percer le côté du Christ avec sa lance. Bouleversé, il clame son témoignage. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. En Marc, chapitre 15, verset 39. La descente aux enfers. La représentation biblique est basée sur l'évangile apocryphe de Nicodème, composé au 5e siècle. Le Christ, vêtu de blanc, apparaît glorifié dans une mandorle bleue. Sous ses pieds, les portes des enfers qu'il a brisées. Deux anges enchaînent Satan. Les clés et les serrures tombent dans l'obscurité de la géhenne. Jésus relève d'abord Adam et Ève à sa droite, puis Jean le Baptiste, le dernier prophète, et en habits royaux et couronnés, David et Salomon. À gauche du Christ, Abel, Moïse et des prophètes. Au-dessus, un ange arbore la croix indiquant que le sacrifice de Jésus sur la croix accorde la rédemption à l'humanité. Le Pantocrator, le maître de l'univers, trône comme un empereur byzantin porté par des séraphins. La figure divine est représentée par l'hématium bleu, couleur de l'humanité, et sa robe, le chiton rouge sombre, couleur du divin. Le Christ béni de la main droite. Trois doigts sont en contact signifiant la Trinité. Deux restent libres, montrant la nature divine et humaine que le Christ unit en lui. Sa tête est entourée d'un nimbe ou auréole crucifère portant les lettres W, O, N, Je suis celui qui est. Sous les pieds de Jésus, l'univers qu'il a sauvé et autour de lui, les symboles des quatre évangélistes. L'ange pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. Écrit en grec sur le livre ouvert par le Pantocrator, le verset de Saint Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » invite tous les hommes à le rejoindre. Elle est vivante, la parole de Dieu.
Vous êtes bien sur Fidélité Mayenne, je continue à relayer les annonces des événements autour du patrimoine pour les Journées européennes du patrimoine de samedi et dimanche prochain. Au niveau par exemple du musée du château de Mayenne, vous pouvez visiter le château gratuitement, même en visite express 30 minutes. Il y a une exposition temporaire, jumelle culturelle Mayenne-Jésy. C'est un voyage artistique. Il y a des ateliers en continu, des ateliers de création avec des papiers colorés, découpés et superposés, en compagnie de B959, artiste illustrateur. Il y a des animations autour des armes médiévales à remettre en ordre avec un spécialiste en reconstitution médiévale. Et puis un peu plus loin, de 10h à midi, vous pouvez visiter la chapelle classée Saint-Léonard. On ne peut d'ailleurs le faire qu'aux journées du patrimoine. Elle est à proximité du gué Saint-Léonard et vous pourrez admirer ses fresques magnifiques du XIVe siècle, de 10h à midi. Enfin, dimanche 18 septembre, l'église de Sacé à 15h et le musée de Mayenne à 17h vibreront au son d'œuvres sacrées chantées, par exemple le Stabat Mater magnifique de Pergolèse, le tout interprété par la classe de chant du Conservatoire de Mayenne Communauté, dimanche 18 septembre, 15h à l'église de Sacé et 17h au musée du château de Mayenne. L'association Sauvegarde et Mémoire de l'église de Saint-Julien des Églantiers organise le samedi 17 à 10h30 l'inauguration des vitraux du chœur en présence de nombreux élus et de M. Arondeau, grand spécialiste des vitraux du Carmel du Mans. 19 vitraux déposés, restaurés et qui retrouvent petit à petit leur place après 24 années d'attente et de travail, c'est exceptionnel. Dimanche, vous pourrez venir visiter et admirer cette église restaurée. Et il y aura des visites guidées de 10h à midi et de 14 à 18h. L'après-midi, à 15h30, le samedi, un concert est donné par la chorale Clé de Sol, la Gaîté Parisienne. C'était donc pour Saint-Julien des Églantiers. De son côté, l'abbaye de Clermont à Olivet, près de Laval, n'est pas en reste. Visite libre de 14 à 18h, vous pourrez également découvrir les tables nobles, paysannes et monastiques au Moyen-Âge avec la confrérie facétieuse. Le samedi soir, réservez votre place pour le concert de musique baroque des Fous divertissants à 16h. Ce sont donc deux belles journées qui vous sont proposées dans ce site verdoyant et grandiose. Du Maine, découvrez ou revenez au château des Arcis. Ses bâtiments 17e, ses jardins Renaissance reconstitués, ses canaux, sa promenade autour de l'étang, l'île labyrinthe, on peut venir avec les enfants bien sûr. Vous pouvez profiter d'une visite guidée par le ou la propriétaire, visite des extérieurs du château, de la grange magnifique, de la salle basse du donjon, etc. Il y a une exposition de photographies sur bâche de sites historiques. Et enfin, les enfants pourront résoudre les énigmes du parc 17e. Un parcours jeu pour eux, de 3 à 7 ans avec leurs parents. Un parcours enquête pour les 7 à 13 ans. Il faut retrouver un précieux collier qui a disparu. Donc il y a de joyeux moments à vivre en famille dans un cadre exceptionnel au château des Arcis. Pour les amateurs de musique, plusieurs lieux accueillent des concerts variés. L'ensemble instrumental de la Mayenne, par exemple, présente avec ses 14 musiciens un concert intitulé « Entre ombre et lumière », Tchaïkovski, Schubert, Debussy entre autres, samedi 17 à l'abbaye de la Roue à 18h, dimanche 18 à l'abbaye de Notre-Dame du Port du Salut à 16h. L'entrée à chaque fois est libre et il est possible de visiter les lieux au préalable. À la Cée, Luc Arbogast, chanteur étonnant révélé par l'émission télévisée The Voice, se produira seul avec ses instruments pour un concert acoustique. Il faut réserver pour ce vendredi 16 septembre à 20h30 sur le site du château de la Cée. À bouchant l'écran, la lyre Saint-Tugal vous propose le Requiem de Forêt et trois motets de Mel Bonis à 16h. Le dimanche 18 septembre, en l'église Saint-Pierre de Bouchamp-l'Écran, et l'entrée est libre. De nombreuses promenades aussi vous seront proposées pour les journées du patrimoine, souvent en bordure de rivière, à Saint-Jean-sur-Mayenne, ou entre Vèges et Saint-Georges-le-Fléchard, ou bien des balades découvertes, par exemple du hameau de Sainte-Anne de Marcillé, si des paysans, ou de Saint-Frimbaud de la Cée. Enfin, au service patrimoine de la ville de Laval, les événements foisonnent. Visites commentées, animations en réalité virtuelle, expositions du vieux château au bateau lavoir, en passant par les bains-douches municipaux, les remparts, la porte Bécheresse, des dizaines de choses sont à faire et à découvrir. N'oubliez pas de passer par le studio vidéo municipal de Laval, un trésor audiovisuel sur 100 ans d'histoire de la ville. Il y a des films d'archives, des films d'amateurs, des tournages par les services de la ville. Vous verrez des moments mythiques de Laval, vous entendrez des témoignages émouvants, c'est à ne pas manquer. Toujours situé à la bibliothèque Albert Legendre, l'atelier audiovisuel de Laval fête ses 41 ans. Donc pour tout ce qui concerne le patrimoine de Laval, rendez-vous sur le site www.patrimoine.laval.fr. Samedi et dimanche à Pontmain, venez visiter la tribune de l'orgue par groupe de 10 pendant 20 minutes. Les visites se font de 13h30 à 16h et le dimanche jusqu'à 15h30. Deux messes sont proposées dimanche à 10h30 et à 17h. Et à 18h, audition découverte, dont l'entrée est libre. Je termine par une nouvelle réalisation de la commission d'art sacré, inaugurée ce week-end. C'est la visite guidée par QR code de la basilique d'Avesnières. Armé de votre smartphone, vous visitez à votre rythme cette belle église, vous découvrez son histoire, son architecture et vous choisissez les œuvres dont vous voulez entendre les commentaires ou les explications. À Laval, il y a déjà deux sites qui avaient cet ingénieux système de visite guidée, la cathédrale, vous pouvez la revisiter, et l'église Renaissance de Saint-Vénérand. Pour les malvoyants ou les malentendants, on peut écouter les visites ou on peut les lire sur son smartphone. Alors voilà, un tour d'horizon, hélas bien résumé, mais qui vous donnera peut-être quelques idées. Je vous souhaite un bon week-end et de bonnes visites en tout cas. Merci pour votre écoute.